Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
Après le débat et les annonces, place aux actes donc. C'est l'enjeu du séminaire gouvernemental qui débute ce matin, notamment avec cet objectif de plein emploi annoncé par le président de la République pour 2025. Bonjour Nathalie Janson.
Bonjour.
Vous êtes économiste et enseignante-chercheur de Neoma Business School. Et bonjour à Jean-Baptiste Djebari.
Bonjour à vous.
Député de La République En Marche du département de la Haute-Vienne. Merci à l'un et à l'autre d'être avec nous ce matin. D'abord, pour qu'on comprenne bien ce que signifie le plein emploi, ça ne veut pas dire 0% de chômeurs, mais plutôt 5% à l'échelle d'un territoire. Nous sommes d'accord, Nathalie Janson ?
Oui, tout à fait. Le plein emploi, en fait, se définit par rapport au niveau, en fait, incompressible en dessous duquel le chômage ne peut pas baisser. C'est-à-dire que même s'il y a une très forte croissance, ce chômage, en fait, ne baisserait pas.
Donc, quand on évoque aujourd'hui un pays de l'Union européenne qui n'a pas de chômage, ça veut dire que c'est un pays qui a aux alentours de 5% de chômeurs, voire moins, c'est ça ?
Alors ça dépend des pays européens. On n'a pas tous le même niveau, évidemment, de chômage incompressible. Et par exemple, l'Allemagne ou l'Angleterre, ce niveau se situe plus bas. La France, effectivement, est caractérisée par un niveau relativement plus élevé.
Deux objectifs pour Emmanuel Macron. D'abord, passer la barre des 7% à la fin du quinquennat en 2022. Et donc, le plein emploi en 2025. Avant de me tourner une première fois vers Jean-Baptiste Djebari, je vous pose la question à vous, Nathalie Janson. Est-ce que ça vous semble possible ?
Ça me semble très ambitieux et effectivement là il se lance dans une promesse en fait qui a eu beaucoup de conséquences négatives avec ses prédécesseurs. Donc oui, c'est un peu osé d'aller sur cette promesse puisque son prédécesseur lui aussi s'était un peu cassé les dents sur ce type de promesse. Donc bien évidemment il a bénéficié là pour le moment, on bénéficie d'une baisse modérée en fait du chômage, on est sur une baisse tendancielle de 1,5. Oui. Mais de là à dire qu'on approchera les 7%, effectivement, c'est risqué.
Alors, je rappelle pour les plus nostalgiques que la dernière fois que le taux de chômage dans notre pays a été de 7%, c'était en 1983. J'ai bien dit 1983. Jean-Baptiste Djebari se donnait un objectif chiffré comme ça. Est-ce que ce n'est pas un risque inutile pour le président de la République ?
Bon, l'optimisme est une volonté.
Oui,
vous avez raison de rappeler qu'en Allemagne, le taux de chômage actuellement, c'est 3,1%. Et donc, le taux de chômage, il dépend aussi beaucoup de la structure des économies. Vous savez que nous avons une économie dans laquelle nous voulons des emplois durables. Bon, moi, j'observe que depuis quand même 2 ans, on recrée de l'emploi en France, que c'est vraiment le combat majeur, qu'on a créé 500 000 emplois, dont des emplois industriels, et ce n'était pas arrivé depuis 10 ans, et c'est important de le noter.
Oui, oui.
Qu'on se porte plutôt pas plus mal que nos voisins, je pense notamment à la croissance allemande qui s'effondre et à l'Italie qui rentre en récession, et qu'on a, pour essayer de solutionner ce problème-là, investi massivement sur la formation. Vous savez que c'est 15 milliards d'investissements sur la formation et les compétences pendant le quinquennat, ce qui doit permettre beaucoup plus de fluidité dans l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le temps en emploi est beaucoup plus court, notamment les jeunes et les seniors, vous savez, ont plus de difficultés à retourner en emploi que ceux qui sont des actifs diplômés. Et donc tout ce travail-là doit permettre de fluidifier le marché du travail.
Donc vous nous dites, il a raison finalement de fixer un cap de ce type, même si on sait que c'est dangereux et qu'on va lui en reparler en permanence, tout simplement parce que les choses vont mieux, pour dire les choses simplement.
Parce que finalement, effectivement, il y a une forme de redécollage un petit peu de non seulement de l'économie française, et puis il y a des investissements massifs dans la formation. Et je crois qu'effectivement, il faut tracer un cap politique. Vous savez que l'OCDE, la semaine dernière, a évalué l'ensemble des mesures fiscales et de libéralisation et de réforme des ordonnances de travail, notamment en 17 et en 18, et qu'elle a déclaré, l'OCDE, que ces réformes étaient favorables à l'emploi à 10 ans et permettraient notamment d'améliorer le sort de ceux qui sont aujourd'hui la classe moyenne et la classe moyenne inférieure.
Je vous cite quand même les chiffres, selon les calculs les plus récents. Passer sous la barre des 7% pendant le quinquennat, c'est donc baisser le taux de chômage de 2,6% et réduire le nombre de chômeurs de 750 000.
Oui,
vous rendez compte de la haie, là ?
Oui, c'est vrai qu'il y a une haie, mais il y a aussi des opportunités. D'abord, vous avez vu que l'économie aujourd'hui, elle est assez largement en transition. On a de plus en plus d'économies numériques et on peut regarder aujourd'hui ceux qui sont des mastodontes dont les valorisations boursières sont quasiment les PIB de petits États. Uber s'est créé en 2009. Instagram en 2010. Vous voyez bien à quel point aujourd'hui l'économie va vite. Et puis par ailleurs, il y a des sources ou des gisiers d'opportunités, notamment au niveau de la politique industrielle. On a vu il y a quelques semaines l'impossibilité au niveau européen de créer un leader du ferroviaire qui aurait été Alstom et Siemens. Vous voyez aussi qu'en se positionnant fermement au niveau européen, on peut créer des opportunités massives pour l'emploi.
Alors, il est intéressant aussi de s'intéresser parfois tout simplement à la sociologie, à la démographie du pays, Nathalie Janson. Les baby-boomers vont arriver à l'âge de la retraite, il va bien falloir les remplacer. Est-ce que ça ne fait pas en quelque sorte des cases à remplir, c'est-à-dire des emplois assurés en quelque sorte ?
Oui, bien évidemment, c'est un possible appel d'air en fait sur le marché du travail, mais le problème c'est toujours là où la faiblesse en fait sur ce marché du travail qui n'est pas fluide et en fait qui n'est pas où les individus en fait sont peu interchangeables. Et on revient au problème des qualifications, parce que comme vous savez en fait le chômage en France, là où il est le plus élevé, c'est sur les populations en fait qui n'ont pas fait d'études, ouais, et qui sortent sans qualification, puisque leur taux de chômage n'a guère baissé en dessous les 15% depuis plus de 20 ans maintenant, et c'est toujours effectivement ceux qui sont problématiques. Donc même si effectivement on a plus d'offres d'emploi potentielles à cause de ce départ des baby-boomers, et ça ne veut pas dire en fait que finalement le chômage baissera d'autant.
Oui, on ne remplace pas un retraité par quelqu'un du jour au lendemain, et donc ce que vous soulevez là, c'est la question de la formation.
Tout à fait. La question de la formation, et pas seulement de la formation de ceux qui sont en emploi, mais de la formation plus globale, en fait, de la façon dont nos jeunes sont formés et des différentes voies, en fait, possibles. Il est vrai que on ne s'est pas suffisamment attaqué à ce genre de problème, notamment sur les formations courtes, où en France, on a considéré que, effectivement, tout le monde devait aller au bac. Et donc, on n'a pas mis en place, on n'a pas en tout cas favorisé les qualifications pour des métiers manuels ou des métiers en fait qui nécessitent plusieurs types de compétences. On est pour le moment pas très armé en fait pour pouvoir faire en sorte que des jeunes qui sont en échec scolaire, comme on le qualifie en France, en plus on porte un regard négatif sur le fait qu'on ne va pas à l'école jusqu'au bout, eh bien tout ça ne permet pas une formation correcte en fait des jeunes qui ne peuvent pas suivre l'école normalement.
C'est très intéressant, très important ce que vous venez de nous dire, mais Jean-Baptiste Gébari, j'ai envie de vous dire, même si ce sont sur des formations courtes, on forme pas comme ça du jour au lendemain des gamins qu'on récupère pour aller récupérer des emplois, c'est pas vrai.
Non, mais c'est pour ça qu'on fait un travail.
Il y a au minimum 2 ans, je dirais, de résonance.
Oui, mais c'est pour ça qu'on disait que depuis 2 ans, l'économie va un petit peu mieux. Il y a un travail énorme à faire en termes de formation initiale. Il y a effectivement une revalorisation culturelle, des métiers, notamment des métiers manuels qui, oui, pendant longtemps, ont été dévalorisés. Puis il y a tout ce travail.
Il y a de la pénurie de main-d'œuvre dans notre pays. Hein, c'est quand même incroyable.
Moi, c'est incroyable. Donc, territoire rural, là où, oui, je viens, vous avez des entreprises de scierie dans le bois ou de logistique qui cherchent des jeunes et qui me disent. On n'a pas un problème d'emploi, on forme, on paye un peu plus que le SMIC, 1400, 1500 euros net, on forme sur des temps longs, 3, 4, 5 mois, c'est qualifiant, et on a un jeune sur 10 qui reste. Alors c'est pas forcément que l'histoire des compétences, c'est parfois la capacité de se rendre sur place, donc la mobilité en territoire rural. Vous voyez, ce sujet-là, ils sont un petit peu multiples. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui en France, on a un problème d'appariement de l'emploi, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi qui cherchent du job, et ces jobs, ils existent, mais ils n'arrivent pas à trouver les gens. On n'a pas un problème, effectivement, de pénurie de l'offre. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça veut dire, effectivement, comme le disait Nathalie Janson, qu'il faut faire absolument ce travail sur la formation. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Pour la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, où je suis élu, c'est 1 milliard d'euros, État et région, qui sont investis sur 5 ans. C'est donc massif. Et
est-ce qu'il faut s'inspirer des exemples des pays étrangers qui se portent mieux que nous, Nathalie Janson?
Alors là, on en revient à la querelle qui est historique, en fait, entre les pays qui pensent qu'un marché du travail plus flexible, c'est-à-dire où, en fait, on va favoriser la libre contractualisation entre l'employeur et l'employé, est un moyen, en fait, de permettre une intégration des personnes sur le marché de l'emploi. Et nous, la France, qui avons quand même toujours défendu plutôt la vision d'un marché du travail qui va protéger en fait le travailleur et par conséquent va donner moins de flexibilité. Donc ça, c'est un choix de société qu'il faut assumer ses conséquences. Et effectivement, en France, on paie avec un chômage donc structurel un peu plus élevé le fait qu'on ait voulu protéger les entrants. On n'a pas l'impression qu'en France on ait envie de changer cette volonté. C'est-à-dire que je pense que les Français sont toujours intimement ils défendent en fait la protection en fait des gens sur le marché du travail, et c'est ce qui explique la différence. Donc là, c'est un modèle en fait de société.
Est-ce qu'on peut évoluer dans ce domaine? Est-ce que vous sentez la force de le faire?
Je crois que c'est nécessaire. Mais ça se démontre. Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis 2 ans.
Merci beaucoup Jean-Marc Djebari. Merci aussi à Nathalie Janson qui était aux côtés de Nicolas Bobby pour prendre la parole ce matin. Dans un instant, les essentiels de l'actualité avec Agnès Bonfillon et de ce marché du travail et bien entendu du chômage dans notre pays. Après les projets ambitieux du président de la République, on va continuer de parler bien au-delà de ce séminaire.